Bonjour, bienvenue dans l'Info C'est Clair. Qui a dynamité le barrage de Kakhovka en Ukraine? 17 000 civils ont dû être évacués d'urgence. Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre. L'Info C'est Clair est intitulé « Barrage dynamité et guerre totale ». Nos invités, général Vincent Desportes, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po, vous avez été directeur de l'école de guerre et citons votre livre « Devenez leader », c'est aux éditions Odile Jacob. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po, je cite votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» dont la troisième édition est publiée, c'est aux éditions Studirama. Et enfin Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos, en charge du suivi des régions Europe de l'Est, Proche et Moyen-Orient. À lire ce matin dans les Échos votre article « Ukraine, les conséquences catastrophiques de la destruction du barrage de Kakhovka ». Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, 17 000 habitants ont dû être évacués. 80 communes pourraient être englouties d'ici quelques heures, et ce après la destruction de ce barrage sur le fleuve Dniepr. C'est l'un des plus grands barrages d'Ukraine qui était tenu par les Russes. Mais Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité de cette destruction. Sujet de Jenny Meyer avec nos envoyés spéciaux en Ukraine, Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Ludovic Lavieille.
L'eau est venue envahir les rues de Nova Kakhovka. Les maisons sont inondées et les routes devenues impraticables. De part et d'autre du Dniepr, un torrent d'eau continue de s'échapper. 80 communes se trouvent en zone inondable. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 17 000 habitants doivent être évacués en urgence. À Kherson, l'eau continue à monter. Après l'occupation et les bombardements, c'est une nouvelle épreuve pour les habitants.
C'est horrible pour nous. On a tous des amis, des parents qui vivent ici. Ce n'est pas possible de nous imposer ça.
Quand tu vis ici depuis plus de 6 mois, après avoir été bombardé tout le temps, après avoir eu peur tout le temps, c'est effrayant.
Les gens normaux ne feraient jamais ça. Ce ne sont que des terroristes.
Les secouristes passent de maison en maison pour aider aux évacuations. Ici, cet habitant est transporté sur un tapis en guise de civière. Côté russe aussi, selon les autorités, de nombreuses évacuations seraient en cours. Des opérations qui devraient se poursuivre dans la journée. Plus de 40 000 personnes se trouveraient dans les zones inondées.
Yves Bourdillon, j'ai lu dans votre article ce matin que c'est interdit de détruire un barrage. C'est la convention. Donc, on a entendu dans le reportage un Ukrainien dire « les gens normaux ne feraient jamais cela, ce sont des terroristes
». C'est un crime de guerre d'après la convention de l'ONU de 1949, en effet. Donc, reste à savoir qui a commis ce crime. Alors, il n'y a pas d'éléments de preuve, mais il y a quand même des éléments assez convergents qui pointent vers la Russie. D'abord, pour la capacité technique à le faire, c'est-à-dire qu'un barrage comme ça, c'est très solide. Ça doit retenir 18 milliards de mètres cubes d'eau.
C'est 18 fois le lac d'Annecy, disait hier Nicolas Châteauneuf, qui précisait que le débit aussi de l'eau, c'est 5 fois les chutes du Niagara, là, qui est en train d'envahir l'aval.
Donc c'était un mur de terre et de béton armé extrêmement costaud, et vous ne pouvez pas le détruire avec quelques obus de mortier que les Ukrainiens auraient tirés. Ce sont des dizaines peut-être de bombes qu'il aurait fallu tirer, ou de missiles de croisière. D'ailleurs, les Britanniques avaient fait ça en 1943, ils avaient attaqué 3 barrage en Allemagne, et ils avaient réussi à en détruire un seul après avoir mobilisé 3 escadrilles. Donc un coup des Ukrainiens, on l'aurait entendu. Un bombardement massif, on l'aurait vu. Donc c'est très très peu probable. À l'inverse, les Russes, comme ils tiennent ce barrage, placer des explosifs quelques centaines de kilos à un point névralgique, c'était pas très compliqué. Ils savent le point faible au milieu. Et donc c'est probablement ce qui s'est passé, puisqu'à 2h du matin, des riverains ont entendu une grosse explosion. Et le dernier point, qui, un accident, on peut l'envisager, mais sauf que les barrages, quand ils cèdent naturellement, on va dire, la physique fait que c'est sur les rives que ça cède d'abord, alors que là, c'est au milieu que le barrage a cédé. Donc tout pointe vers les Russes, et puis ensuite, il faut reconnaître que l'intérêt va plutôt dans leur sens, puisque ça va neutraliser à peu près 100 km de front que les Ukrainiens ne pourront plus attaquer, puisque les blindés ne pourront plus passer, c'est inondé. Alors, il y a un petit point qui fait que les lignes défensives russes vont être, elles aussi, submergées, mais elles n'ont plus rien à craindre. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles sur 100 km et redéployer des unités plus au nord.
Sauf que, général Vincent Desportes, on explique aussi que ce fleuve, le Dniepr, il alimentait en eau la Crimée, que ce barrage, il alimentait en électricité aussi la rive russe. C'est la politique de la terre brûlée à laquelle nous ont habitués les Russes. Alors, ils l'ont fait sous Staline et sous Napoléon même. Hein. C'est pas vous l'expert militaire que je vais rappeler ça.
Je suis le DFR. La question est pas à qui profite le crime, parce qu'il profite complètement à personne, mais à qui profite le plus le crime. Et je suis bien d'accord, il profite davantage, malgré les problèmes sur la Crimée, etc. Ensuite, le Figaro, ce matin, parlait de la terre brûlée et la terre inondée, qui étaient deux vieilles armes militaires, et ça, c'est toujours vrai. Hein, les forteresses se défendent avec des douves depuis des siècles. Et rappelez-vous que des pays, avant la convention dont nous parlions, parfaitement honorables, maintenant, comme l'Allemagne, ont inondé tout le bas du Cotentin de manière à ce que des milliers, ça s'est passé comme ça, de parachutistes de la 101e et de la 82e se noient le 6 juin au matin, qu'ils avaient inondé totalement les Pays-Bas de manière à ce que le débarquement ne se fasse pas là, que effectivement, vous l'avez rappelé, les Anglais et les Américains ont cherché à détruire des barrages. Donc c'est une vieille arme, évidemment, et on sait que cette guerre est une guerre idéologique pour Poutine, et je pense qu'il ne reculera pas devant la mort, il ne recule pas devant la mort,
les siens. Parce que oui, c'est les siens sur la rive à l'est, ce sont les Russes.
Y compris les siens. Enfin, on se rappelle la guerre, la grande guerre patriotique, mais celle-là aussi, on n'a pas été Prigogine, mais dans la grande guerre patriotique, il y a eu 25 millions de morts russes, et il y en a eu beaucoup qui ont été tués par les commissaires politiques qui tiraient sur les gens qui ne voulaient pas avancer. Donc je ne pense pas que ça lui fasse véritablement peur et que ça le dégrève de cette possibilité que ce soit effectivement la Russie qui ait fait cet attentat, parce que c'en est un.
Patrick Martagenet, est-ce qu'on peut néanmoins avoir le doute ? On sait que dans cette guerre, il y a beaucoup de désinformation. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un autre mystère, on ne sait toujours pas, c'est cette affaire du gazoduc Nord Stream qui a explosé, c'était en octobre dernier. On ne voit pas très bien pourquoi les Russes l'auraient fait. En même temps, on a l'air de dire que ce sont les Russes qui ont fait exploser leur propre gazoduc. Il y a des manipulations, c'est le lot de toutes les guerres, me direz-vous, mais il y a quand même la place pour le doute.
Ah oui, il y a toujours une place pour le doute dans ces informations. S'agissant du pipeline Nord Stream 2, effectivement, vous l'avez dit. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en réalité, le procureur général de Suède a dit qu'il n'avait aucune information. Alors, quand vous dites qu'un procureur général qui a des informations, qui a des moyens d'investigation...
Ça, c'est sur Nord Stream.
Oui, sur Nord Stream, a des doutes. C'est que, et selon le Washington Post, ça pourrait être éventuellement l'Ukraine qui aurait dit dynamité ou pourquoi ? Parce que cela aurait forcé l'Occident à se sevrer totalement des sources d'énergie russes. C'est une possibilité. Et là, en effet, quand vous dites effectivement à qui profite le crime, il profite à personne parce que nous sommes en guerre, c'est dramatique. Mais manifestement, là encore, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui disent que ce seraient les Russes qui seraient derrière. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, ce n'est pas un missile qui a détruit ce barrage, c'est une explosion interne. On sait que des mines avaient été déposées dès le mois de février 2022. C'est un barrage qui est contrôlé par les Russes. Et donc, manifestement, effectivement, tout cela semble profiter aux Russes. J'ajouterais une chose, c'est qu'en inondant le sud de ce barrage, cela empêche les Ukrainiens d'avoir une offensive au sud. Et selon les militaires, ça permettrait de recentrer les troupes russes sur le nord, la partie nord de l'Ukraine, notamment dans la partie occupée, ce qui donnerait en réalité un avantage militaire aux Russes. Et ce qui pourrait expliquer, ce sont effectivement les Russes qui sont derrière ce sabotage.
Yves Bourdieu. En créant un immense marécage, ça fait ça de moins à protéger pour les Russes. Le marécage est une sorte de...
Oui.
Ou c'est un grand lac, ça va être en l'aval de...
Absolument. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, sur une portion d'environ 100-160 km.
Il n'y a aucun tank qui passera. Voilà.
Déjà, c'était... Alors, cela dit, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, mais avant, déjà, ce n'était pas une zone où l'offensive aurait été simple. Enfin, le général va... Voilà. Donc, c'est vrai que traverser le Dniepr, c'est un assaut amphibie sous le feu ennemi. Le Dniepr fait au minimum 300 mètres, parfois plusieurs kilomètres. C'était déjà très, très compliqué. Donc là, maintenant, ils sont tranquilles et ils peuvent se concentrer, comme vous l'évoquez, plus sur la région de Zaporijjia.
D'ailleurs, ce barrage alimentait en eau la centrale nucléaire de Zaporijjia.
Oui. Alors, cela dit, à propos, justement, sur l'eau, premièrement, Zaporijjia a des stocks d'eau pour refroidir
son... La centrale nucléaire.
Voilà. Donc, la centrale de Zaporijjia, la centrale nucléaire, a ce qu'il faut pour refroidir. Donc, normalement, pas trop d'inquiétude. Et on évoquait tout à l'heure la Crimée. Il y a un autre élément, c'est qu'en fait, la Crimée s'est passée de l'eau de ce canal après son annexion en 2014 jusqu'à mars dernier. Donc, elle peut faire sans cette eau-là. Le canal n'a été rouvert par les Russes que quand ils ont pris Kherson. Donc pour la Crimée, c'est grave pour l'irrigation des terres agricoles, mais pour l'eau potable, il n'y a pas de souci.
Général Vincent Desportes, il y a la ville de Kherson, alors qui, pour le coup, est sous contrôle ukrainien, c'est à l'ouest du Dniepr. 1 million d'habitants. On en parlait tout à l'heure, on voyait ces habitants dépités. On a eu les bombardements, on a eu l'occupation, maintenant on a l'inondation, 17 000 civils évacués. On oublie que malheureusement, les guerres, c'est aussi beaucoup de civils qui souffrent. Et là, on le touche du doigt et c'est en Europe que ça se passe.
Les civils, on l'a bien compris en Ukraine, sont autant la cible des attaques de la Russie que les...
Et ça ne devrait pas l'être.
Mais ça ne devrait pas l'être, oui et non. Mais vous savez, il y a le droit et il y a l'histoire des guerres. Il y a l'histoire des guerres et il est clair qu'il est plus simple de faire effondrer l'arrière que de détruire les chars qui sont devant. Et depuis le début de cette guerre, M. Poutine conduit bien une guerre de terreur, comme d'autres l'ont conduit. Et là, effectivement, ça, c'est encore de nature à déstabiliser, à fatiguer le peuple ukrainien, etc. Moi, je connais bien les États-Unis, la guerre civile. J'étais très frappé par ce que dit Sherman quand, sous les ordres de Grant, donc c'est pendant la guerre civile.
1863.
Voilà.
Ouais,
exactement.
J'ai bon.
Exactement. Vous avez bon. Il va détruire les Carolines. Et il dit, Sherman, il dit aux habitants au sud, aux soldats du sud, aux populations du sud, vous voulez la guerre, eh bien, vous allez tellement souffrir qu'un jour vous arrêterez. Donc, il brûle l'attentat, il brûle les moissons. Donc, je dis que la terreur.
La guerre s'arrête quand les populations sont fatiguées, quoi. Et la fatigue prend le pas sur la revanche.
Exactement. Non, mais exactement. Donc, c'est une arme, je dirais, tout à fait abominable, mais c'est une arme. Une arme, hélas, qui, quand on a quitté la civilisation, on a compris que les Russes ont quand même un peu quitté, eh bien, devient naturelle, parce que c'est une vieille arme de la guerre. Ouais.
Sauf que là, si vous voulez, le peuple ukrainien est plus jamais mobilisé que jamais. Ce sont des gens qui ont une capacité de résilience et de résistance considérable. Et on sait que Vladimir Poutine n'a strictement rien à faire du droit international. C'est quelqu'un qui est dans une logique mortifère, qui ira jusqu'au bout et qui est prêt à sacrifier l'ensemble de ses soldats. Donc on est dans une logique complètement irrationnelle et seuls des Russes ou éventuellement l'entourage pourra arrêter Vladimir Poutine. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Vous disiez la terre brûlée, la terre inondée. Eh bien, la seule dernière option qui se offrira à lui. Hélas, et espérons que ça n'arrivera pas, c'est l'optique nucléaire.
Dieu sait s'il a agité cette menace au point qu'il a agacé les Chinois. D'ailleurs, ils lui ont dit, arrête de brandir cette menace nucléaire.
Cela dit, cette inondation va certes réduire le front, donc rend plutôt service à la Russie, mais pour autant, ça ne perturbe pas tant que ça les opérations offensives ukrainiennes au nord. C'est-à-dire qu'ils ont massé toutes les troupes qu'ils voulaient pour attaquer au nord, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs peut-être depuis quelques jours, mais ce n'est pas parce qu'il y aura un peu de perturbation au sud, parce qu'il va falloir évacuer des réfugiés, gérer tout cela, mais l'Ukraine malheureusement est entraînée à cela depuis un an et demi, donc il y aura un peu de logistique consacrée à l'évacuation des civils, peut-être 100 000 personnes, mais sur le plan des opérations militaires...
C'est plus au nord de ce barrage que ça devrait se passer. Alors justement, quand le début de cette grande offensive, la Russie dit déjà avoir repoussé différentes offensives aussi bien dans la région de Donetsk qu'à Bakhmout ou encore qu'à Belgorod. Sujet de Marc de Chalvron, Emmanuel Lagarde, José Boulestex et Vincent Castel.
Vidéo à l'appui, l'armée russe affirme avoir déjoué une grande contre-offensive ukrainienne. On voit des blindés supposément ukrainiens détruits les uns après les autres, ici dans la région de Zaporijja, là dans la région de Donetsk. En tout, l'armée russe affirme avoir repoussé 5 assauts majeurs à différents endroits de la ligne de front, alimentant les spéculations sur le début de la grande contre-offensive ukrainienne tant attendue. Problème, l'Ukraine affirme que ces vidéos sont anciennes. L'armée ukrainienne s'attribue simplement des succès dans la région de Bakhmout. Et pour seule indication concernant la fameuse contre-offensive, l'état-major ukrainien a publié cette vidéo où l'on voit plusieurs de ses soldats appeler au silence. Une manière de dire que rien ne sera dit concernant le déclenchement de la contre-offensive. L'armée ukrainienne brouille les cartes donc et pendant ce temps-là, les attaques se poursuivent en territoire russe dans la région frontalière de Belgorod, des bombardements par drone et des incursions terrestres menées par des miliciens russes pro-ukrainiens. Sur ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit certains de ces miliciens dans une localité russe à la frontière avec l'Ukraine. Des attaques à répétition en territoire russe qui répondent, d'après les experts, à une stratégie ukrainienne en vue de la contre-offensive.
Ce que les Russes pro-ukrainiens essaient de faire à Belgorod, c'est d'imposer à l'armée russe de se repositionner, c'est-à-dire retirer des troupes qu'ils ont aujourd'hui sur le front en Ukraine pour les mettre à Belgorod, c'est-à-dire avoir moins de capacité de combat quand les Ukrainiens décideront de lancer leur offensive sur leur propre territoire.
Autre conséquence de ces attaques en territoire russe, un vent de panique s'est installé au sein des populations civiles obligées de fuir les combats. Une guerre des nerfs à la veille de la contre-offensive.
Alors, général Vincent Desportes, cette contre-offensive qu'on annonce, est-ce que ça veut dire que côté ukrainien, on hésite, on a le bras qui tremble? Ou est-ce que non, c'est une stratégie bien connue, maintenir le flou sur où et quand on va frapper, comme l'ont fait les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, avant le débarquement du 6 juin.
Non, mais c'est évident qu'ils vont... La surprise est la condition initiale de la réussite. Ensuite, est-ce que les Ukrainiens veulent le faire rapidement? C'est pas absolument sûr. On a vu un discours un peu ambivalent du président Zelensky, disant « nos troupes sont prêtes » et en même temps « nous avons besoin des F-16 pour arriver à le faire ». Or, les F-16, on sait bien qu'ils ne seront disponibles et utilisables que dans de nombreux, voire de très nombreux mois. Donc, on voit qu'on n'est pas forcément là devant la contre-offensive. Ensuite, sur cette contre-offensive, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'elle aura lieu. Elle ne peut pas ne pas avoir lieu. Et il faut qu'elle aille le plus loin possible. Mais et la seule certitude qu'on ait, par contre, sur cette contre-offensive, c'est qu'elle n'imposera pas la paix. Elle n'imposera pas la paix. La paix ne sortira pas de cette contre-offensive pour de multiples raisons sur lesquelles, évidemment, je peux m'étendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, l'Occident doit aider l'Ukraine et l'Ukraine doit obtenir militairement le plus de résultats possibles, mais en même temps, on doit être sûr aussi que la paix ne sortira pas de cette contre-offensive. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur cette contre-offensive. Et c'est bien, parce qu'il faut faire les deux à la fois. Mais en même temps, je prépare la contre-offensive parce que le verdict des armes aura un impact sur la sortie politique de cette guerre. Mais en même temps, il est tout à fait important de bien comprendre qu'il faut préparer déjà politiquement l'après-offensive de manière à essayer de rentrer dans un système de paix qui ne soit pas une guerre permanente, ce qu'elle risque bien d'être. Il faut rappeler, peut-être dernier point, que la seule victoire possible de la Russie aujourd'hui, c'est l'enlisement. Est-ce que ce sera l'enlisement où elle est maintenant? Ou est-ce que ce sera l'enlisement sur les frontières de 91? Nul ne le sait. Mais au fond, ce qu'elle cherche très probablement, c'est l'enlisement. Et derrière...
Le statu quo irait parfaitement à Vladimir Poutine.
Mais parfaitement. Et donc, on ne rentrerait pas. Cette contre-offensive, si elle conduit aux frontières de 91, ne produit pas la paix pour de multiples raisons. Et au contraire, elle le fait rentrer dans une période qui sera une période de pré-guerre, quoi qu'il arrive. Et donc, il est important de penser les deux à la fois. Or, aujourd'hui, on se concentre sur la contre-offensive sans penser à l'aspect politique. Or, toutes les guerres se terminent à un moment donné par un projet politique qui soit acceptable et sur lequel on ne travaille pas.
Alors Patrick Martin-Genier, cette contre-offensive qu'on attend, mais est-ce qu'on a raison? Est-ce que d'abord, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un D-Day, là, comme le 6 juin 1944, la grande armada? Est-ce que l'armée ukrainienne en a les moyens? Est-ce qu'on risque d'être déçu à attendre quelque chose qui pourrait faire pchit?
Oui, je pense qu'on risque d'être déçu. Vous parliez d'un effet de surprise, mais enfin, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on parle d'une contre-offensive. Elle ne vient toujours pas. C'est un peu le brouillard de la guerre. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'on entend par contre-offensive. Qu'est-ce que c'est que cette contre-offensive? Est-ce que c'est une blitzkrieg, une guerre éclair, une avancée éclair qui permettrait aux Ukrainiens de reconquérir leur territoire? Manifestement, ce n'est pas le cas. Monsieur Zelensky lui-même dit que de toute façon, il manque d'armement. Est-ce que c'est du clignotage? Est-ce que c'est bombardé derrière les lignes? On n'en sait strictement rien. Mais il y a différentes appréciations. Par exemple, le général David Petraeus, qui a été directeur de la CIA, qui a fait des opérations en Iran, en Afghanistan, il est allé la semaine dernière là-bas à Kiev et il a dit « attention, ça va être impressionnant ». Bon, on ne voit toujours pas ce qui est impressionnant dans cette contre-offensive, d'autant que cela a déjà été dit, il n'y aura ni F-16, ni char, il n'y aura rien. Donc on ne voit pas bien comment cette contre-offensive pourrait avoir lieu de façon extrêmement efficace sans les armements occidentaux. Et d'ailleurs, le président Zelensky l'a dit lui-même. Donc on est un peu dans le brouillard de la guerre et le fait d'annoncer une contre-offensive, peut-être que cela peut avoir un effet psychologique sur les Russes, mais on risque effectivement d'être déçu, sachant que s'il devait y avoir une contre-offensive, elle doit avoir lieu avant la fin de l'été, parce que de nouveau, au mois de septembre, octobre, ce sera l'automne.
Eh oui.
Et donc, voilà. Et donc,
après, c'est la boue hein, en automne qui rend impossible toute progression des armées.
Absolument, hein. Et ça risque d'enliser encore plus au sens propre et au sens figuré cette guerre. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même pense que c'est un conflit qui est appelé à durer.
Yves Bourdillon, C'est vrai que les Ukrainiens se plaignent de ne pas avoir notamment les F-16 et assez d'armes. Est-ce qu'on a un peu l'impression que les Européens retiennent leur coup? On a vu les Américains la semaine dernière. Alors, c'est une question. On a vu les Américains la semaine dernière être très embarrassés de voir que cette guerre commençait à se développer sur les territoires russes. Je cite la Maison Blanche. De façon générale, nous ne soutenons pas les attaques à l'intérieur de la Russie.
Il y a une ligne rouge, c'est qu'on n'utilise pas d'armes occidentales pour frapper le territoire russe. Et pour l'instant, d'ailleurs, l'Ukraine le respecte. Elle frappe éventuellement avec ses propres armes. Donc ça, il y a un embarras, ou du moins, Washington rappelle quelque chose de clair et qui est légitime. En revanche, pour ce qui est de la contre-offensive, à l'inverse de vous, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce qu'on voit depuis lundi, c'est, si ce n'est pas la première phase de la contre-offensive, c'est bien imité, parce que, quand même, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase de grignotage, on appelle ça le shaping, où on travaille un peu la ligne de défense adverse par des petits bombardements, des incursions. Ce qui se passe a été d'ailleurs confirmé par le général Petraeus que vous citiez. C'est quand même quelque chose d'assez d'envergure. Alors, effectivement, ce n'est pas la contre-offensive un peu, beaucoup fantasme, enfin, c'est un fantasme un peu, où on imaginait quelque chose comme le débarquement des Alliés en Normandie, à 2h du matin, massivement, ou bien ce qu'a fait l'armée russe le 24 février à 4h du matin. L'offensive ukrainienne, c'est un peu plus compliqué. Ce sera sans doute plusieurs phases, donc à plusieurs endroits, avec des diversions, des tentatives de percer à tel endroit. Si ça marche pas, on n'insiste pas, on attaque ailleurs. Si ça marche, on s'engouffre. Donc il y a une opération assez compliquée combinée entre artillerie, infanterie et blindés. Et de ce point de vue-là, les Ukrainiens, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas les avions de chasse, d'accord ? Ça, il faudra
s'y voir. C'est pas ce qu'a dit, je peux me permettre, M. Zelensky, qui a dit qu'il manquait d'armement. Et il y a aussi une obligation de résultat, car je rappellerai qu'il y a un sommet de l'OTAN qui se déroule au mois de juillet à Vilnius.
C'est vrai.
Et là, c'est vrai que les Occidentaux attendent quelque chose.
Oui. Eh bien, en ce moment, ils attaquent. Voilà. Ce qui se passe depuis lundi, probablement, de sources russes, c'était 8 bataillons, je crois. Ou 8 brigades, je ne sais plus. Et les deux sources ukrainiennes, j'ai mon journal, un correspondant sur le front, il m'a dit qu'il y a un nombre de bataillons impliqués assez conséquent sur 3 à 4 axes, sur 30 km de large. C'est pas anodin du tout.
Général Desportes, alors vous disiez cette contre-offensive, de toute façon, de cette contre-offensive ne naîtra pas la guerre. Néanmoins,
la paix.
Est-ce que néanmoins, pour Vladimir Poutine, de l'échec ou du succès de cette contre-offensive dépend un petit peu l'avenir politique? On voit qu'il y a des ultranationalistes soutenus par l'Ukraine d'ailleurs, qui attaquent à Belgorod et qui défient les Russes. On voit que Prigojine se permet de critiquer ouvertement Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a comment dire, une anxiété en Kremlin en se disant les semaines et les mois à venir vont être décisifs quant à l'échec ou non-échec de mon opération spéciale?
Alors c'est effectivement la question. Alors, en ce qui concerne les attaques des groupuscules russo-militaires qui attaquent du côté de Belgorod, ce qu'on sait de la réaction des Russes, c'est qu'ils considèrent que ce sont des traîtres et que ça a plutôt tendance à renforcer leur volonté de défense sur le grand thème « Nous sommes attaqués par l'Occident central, les nazis nous attaquent », etc. Voilà. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une inquiétude, et je dirais que c'est plutôt une inquiétude dans les élites russes, et que peut-être l'effondrement ou la disparition de Poutine pourrait venir de cette inquiétude grandissante de la part des élites, de tous ceux là qui ont vu des missiles ou plutôt des drones passer des extrêmement drones. Près de chez eux
à Moscou
il y a quelques jours. C'était bien leur quartier. Donc là il y a évidemment une difficulté. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a des élections en 2024 en Russie, et que Poutine a absolument besoin d'un Prigojine qui hurle fort pour dire, au fond, moi, je suis quand même moins dangereux qu'eux. Donc, quelque part, le président Poutine a intérêt à se montrer lui-même rempart contre quelque chose de pire. Donc, il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'on soit dans un jeu double entre Prigojine et lui et d'autres, pour renforcer sa crédibilité et puis sa légitimité par rapport au peuple russe.
Que sait-on, Patrick Martin-Genier, et pourrait-on le savoir de la position de Vladimir Poutine au Kremlin? Est-ce qu'il est contesté? Est-ce qu'il doit se méfier? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'on a une idée de la solidité et de l'ancrage de son pouvoir ?
En tout cas, il y a une lutte de clans qui semble se renforcer. Quand on voit effectivement les propos de Prigogine du groupe Wagner, qui va très très loin, il insulte carrément l'entourage de Vladimir Poutine, et maintenant il s'en prend à Vladimir Poutine, parce que Ramzan Kadyrov, qui est le chef des Tchétchènes, a beaucoup critiqué Prigogine. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une succession une superposition de clans autour de Vladimir Poutine, avec cette histoire de drone qui arrive sur sa propriété dans la banlieue de Moscou. On l'a réveillé en pleine nuit. Donc je pense qu'effectivement, il y a là un Vladimir Poutine qui n'a pas tellement peur au final de la population, qui est sous le boisseau, c'est une dictature, mais plus une lutte de clans qui a tendance à s'intensifier. On voit que Prigogine, effectivement, a des ambitions politiques très importantes, et on voit que Shoigu lui-même est contesté. Et donc, on voit bien qu'il y a des clans aujourd'hui, et que le principal danger pour Vladimir Poutine viendrait sans doute, effectivement, de son entourage. Le fait que des drones aient pu atterrir à Moscou, à côté du Kremlin ou ailleurs, montre bien qu'il est lui-même humilié, il est ridiculisé. Et aux yeux, effectivement, de la hiérarchie militaire, c'est quelque chose qui aura forcément ses limites, parce que, quelque part, il est en train de montrer qu'il n'est pas en situation, qu'il n'est plus en situation de protéger son propre pouvoir et son pays. Et en cela, je pense, effectivement, qu'il y a une fragilisation, et que cela pourrait un jour, peut-être c'est hypothétique, mais conduire à sa chute.
Alors, en tous les cas, Vladimir Poutine qui essaye de souder son peuple face à la menace occidentale, à la menace nazie. Connaissez-vous à cet égard la théorie que j'ai découverte du milliard d'or ? Eh bien, c'est une thèse complotiste qui est très en vogue en Russie et qui est reprise par les plus hautes autorités de l'État russe. Selon cette thèse du milliard d'or, la Russie serait victime d'un complot ourdi par les pays occidentaux, par les pays riches, qui veulent non seulement éliminer la Russie, mais aussi tous les pays émergents. Sujet de Luc Brisson et Nicolas Vatre pour Vrai ou Fake. On regarde.
C'est une théorie régulièrement mentionné par Vladimir Poutine.
Le modèle de domination totale du milliard d'or est injuste.
Le milliard d'or, Zolotoy milliard en russe, est aussi repris par l'entourage du président. Exemple avec le ministre Sergueï Lavrov ou le représentant russe à l'ONU, Vassili Nebenzia. Le milliard d'or, c'est une théorie imaginée en 1990 par l'économiste soviétique Anatoli Tsikhounov. Selon lui, les pays occidentaux foumontent un plan pour contrôler et exploiter le monde.
Cette théorie part du principe qu'il y a une surpopulation terrestre d'après les occidentaux et que les occidentaux n'ont pas besoin du reste de l'humanité, qu'il faut garder les meilleurs et tout le reste de la population terrestre, mondiale, planétaire, ce sont des esclaves ou alors une masse de gens qu'il faudra exterminer pour accomplir ce grand projet de nouvel ordre mondial selon cette théorie du complot.
Une théorie popularisée ensuite par l'écrivain russe Sergueï Karamurza à la fin des années 90. Dans un texte, le concept du milliard d'or et le nouvel ordre mondial. Selon lui, l'ONU planche sur une réduction artificielle de la population en Asie, en Afrique et URSS. Cette théorie du milliard d'or est très tôt reprise par Vladimir Poutine pour désigner l'Occident. Et ce, dès le début de son mandat en 2000.
Le monde est notoirement divisé en nord et sud selon son niveau de développement, le milliard d'or et le reste de l'humanité.
Une expression qu'il utilise donc toujours 20 ans après.
Poutine aimerait créer cette impression à l'intérieur de la Russie, qu'il y a un milliard d'or contre eux, qu'il existe une minorité de pays riches, gâtés et corrompus captant les ressources du monde et qu'elle est contre la Russie.
Le milliard d'or est donc une théorie complotiste qui a plus de 30 ans. Mais elle sert encore aujourd'hui le discours du président russe qui s'érige ainsi en rempart contre des projets soi-disant diaboliques de l'Occident.
Yves Bourdillon, ce qu'on découvre avec ce sujet, on savait que les Russes avaient un sentiment de persécution, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi finalement un complexe d'infériorité ? Parce que là, de façon objective, ils se rangent du côté des pays émergents, du côté des pays pauvres, victimes des pays riches qui voudraient s'accaparer toutes les richesses. Mais ils se mettent dans l'autre camp, la Grande Russie qui faisait jeu égal avec les USA au XXe siècle.
Ah ben, ils se mettent dans le camp anti-occidental, oui, mais au nom d'une paranoïa. C'est-à-dire que déjà, cette théorie-là ne tient pas la route un quart de seconde, puisque si 5 milliards d'habitants sur Terre disparaissaient, je vous laisse deviner le niveau de prospérité. Enfin, l'Occident n'aurait plus ni clients, ni fournisseurs, ni rien. On disparaît nous aussi. Donc, cette théorie ne tient pas la route un quart de seconde, mais ça, ils sont habitués. Lavrov avait reçu des journalistes à Paris il y a quelques années, j'en faisais partie, où il avait expliqué qu'il avait vu de ses yeux un document secret de la CIA voulant détruire la religion orthodoxe. Donc voilà.
Mais ils croient à leur propre fadaise, oui. Ou ils la
Ah, ben, je pense qu'ils arrivent à s'auto-intoxiquer parce qu'il faut bien voir qu'il y a un courant totalement paranoïaque dans les élites russes qui malheureusement a un petit fondement historique qui est que la Russie est un pays entouré. C'est-à-dire que Napoléon disait tout pays a la politique de sa géographie. Vous regardez la géographie russe, c'est le pays au monde qui compte le plus de voisins, de frontières terrestres, et qui n'a pas d'accès à la mer, puisque la plupart de sa façade maritime, elle est gelée. Donc c'est un pays qui se sent effectivement souvent menacé. Dans l'histoire d'ailleurs, il a été envahi souvent. Bon, il envahit aussi un peu ses voisins. Donc et c'est un pays où les élites sont facilement paranoïaques, et notamment les dirigeants qui viennent du FSB. Quand on dirige le FSB, normalement on est paranoïaque. C'est écrit sur le CV. Hein.
Général Vincent Desportes, je parlais tout à l'heure de ce complexe de supériorité. On se demande presque si la Poutine n'a pas déclenché cette guerre en Ukraine pour se prouver que l'armée rouge était encore une grande armée à la hauteur de la prestigieuse armée rouge qui avait vaincu l'Allemagne nazie en 1945.
En tout cas, je pense qu'il le croyait. Et pour rebondir sur ce que vient de dire M. Bourdillon, moi je crois que dans l'âme russe, il y a à la fois un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Oui. Et dans tous les cas, ça les pousse à attaquer. Et c'est pour ça que la Russie, qui est née à partir de la principauté de Moscou et qui va s'agrandir, est tout le temps en train de s'agrandir pour se protéger. C'est ce que disait Catherine II, c'est ce que disait aussi le camarade de Poutine en disant il n'y a pas de frontière à la Russie. Voilà. Donc il y a cette affaire-là. Maintenant, le milliard d'or, bon, moi je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Poutine parle, maintenant, il ne nous parle pas à nous, il parle au reste du monde, comme il appelle. C'est-à-dire à des gens qui sont prêts à l'écouter, aux BRICS. Les BRICS deviennent maintenant un facteur géopolitique tout à fait important, qui mentionnait, je crois, à Pretoria il y a quelques jours, qu'en fait, ils représentent quand même les deux tiers de la population, en tout cas beaucoup plus que le G7 ou que l'Europe occidentale, que leur PIB est en train de croître. Et on sait bien qu'il y a désormais un certain nombre de manœuvres, si vous voulez, ces BRICS, pour arriver à échapper à l'Occident, à retrouver de la liberté d'action. Donc, quand ce genre de choses est avancé, eh bien, ça ouvre les oreilles. J'en dis, mais pourquoi pas ? C'est vrai que, pour l'instant, il y a un ordre mondial qui est fortement basé sur la puissance de l'Occident. Eh bien, nous voulons nous en libérer, parce que cet ordre mondial est fondé sur un équilibre qui est en train de disparaître. Et donc, ce genre de choses, évidemment, va tout à fait dans les discours, dans le sens de la volonté du président Poutine, qui parle toujours à eux. Parce qu'effectivement, il se veut, lui, au cœur de ce sud global, finalement, alors qu'il n'est pas au sud, hein, qu'il veut révolutionner l'ordre mondial et déstabiliser l'ordre libéral international.
Patrick Martin-Jeunier, c'est bien ça, la Russie qui donc se veut comme le porte-drapeau ou l'un des représentants du Sud global, pour reprendre l'expression qui est à la mode, et qui peut du coup en plus surfer sur un côté anti-Occident assez fort qu'on peut retrouver en Amérique du Sud ou en bien Afrique sûr. Ou en Asie.
Ce qui va dire, général, est tout à fait judicieux, en effet. Le BRICS, alors c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud
et la Chine.
Et on voit bien que ce groupe d'États, qui effectivement, il y a une forte logique anticoloniale, on est encore dans le post-colonialisme, anticolonialisme, eh bien, va tenir bientôt son sommet en Afrique du Sud. Et il y a énormément de candidats d'Amérique du Sud, d'Afrique, de partout, qui veulent s'agréger au BRICS, dont vous disiez effectivement que cela représente une part de plus en plus importante du produit mondial. Brut. Et donc oui, il y a cette volonté de Lavrov, notamment, qui fait ses tournées en Afrique, qui a fait ses tournées en Amérique du Sud, d'agréger beaucoup de pays en faveur de la Russie. Et force est de constater que la Russie n'est pas isolée. Et c'est ça, effectivement, qui est grave aujourd'hui, c'est que ces pays, notamment d'Afrique, ne s'aperçoivent pas ou ne veulent pas s'apercevoir que le colonialisme aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine qui sont en train d'investir considérablement en Afrique. C'est le nouvel asservissement, un nouvel instrument d'asservissement, c'est la Russie et la Chine, mais il est vrai que la Russie, effectivement, est dans une perspective de mobiliser le Sud, d'autres pays, contre l'Occident. C'est un risque, mais naturellement, je ne vois pas bien
ce que pourrait faire la Russie et la Chine pour libérer ces pays, c'est même tout le contraire. Mais il est vrai que c'est un risque très important pour l'Occident de se voir mis en minorité dans beaucoup de pays très importants.
Alors, force est de constater effectivement que les pays occidentaux n'ont pas réussi à enrôler le reste du monde dans ce combat contre la Russie, contre cette agression russe, même si Vladimir Poutine, pour le coup, avec cette agression, a réussi à souder plus que jamais le camp occidental, uni derrière les Américains. Plus que jamais, Vladimir Poutine a réussi à ressusciter l'OTAN qu'Emmanuel Macron décrivait en mort cérébrale. Le président qui est revenu sur cette expression, c'était au forum Globsec le 31 mai dernier en Slovaquie. On écoute Emmanuel Macron.
J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances. En parlant de mort cérébrale, je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs.
Alors justement, attention derrière l'OTAN à ne pas se retrouver inféodée derrière les États-Unis. L'Europe doit s'affirmer et se montrer autonome sur le plan stratégique. C'est ce qu'a tenu à souligner Emmanuel Macron. On l'écoute.
Nous ne pouvons déléguer notre sécurité collective et notre stabilité au choix des électeurs américains dans les années qui viennent. Dans le même temps, les mêmes Américains nous demandent depuis des années, quelles que soient les administrations, de partager mieux le fardeau, de nous occuper davantage de notre sécurité et de notre voisinage. Et c'est donc en cela que oui, une Europe de la défense, un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. C'est le seul moyen d'être crédible pour nous-mêmes, d'être crédible dans la durée, de réduire nos dépendances et de prendre cette part légitime du fardeau qui est le nôtre. Parce que qu'on le veuille ou non, notre géographie ne changera pas.
Alors, général Vincent Desportes, ça c'est ce qu'on souhaite, être autonome. Mais la réalité, c'est que dès qu'il y a un problème, on l'a vu avec la guerre en Yougoslavie, on voit que la guerre en Ukraine, c'est le gendarme américain qui vient mettre de l'ordre chez nous.
Ça me fait pleurer, moi. Ça me fait pleurer de voir l'Europe à genoux tous les matins, disant « Oncle Biden, Oncle Biden, viens nous sauver ». Ça n'est pas raisonnable, cette affaire-là. Et le président Macron a parfaitement raison de dire « On ne délègue pas sa défense ». La France a délégué...
À l'électeur américain.
La France a délégué sa défense entre deux guerres à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui ont conduit une politique qui est pour responsable en partie tout à fait importante de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ne doit pas déléguer. On doit être capable de se défendre. Et il a évidemment parfaitement raison. Moi, je crois, il ne faut pas oublier la grande stratégie américaine. Hein, et un de ses axes fondamentaux, c'est d'être bien le pivot central de l'Occident. Et c'est pour ça que cette guerre en Ukraine, elle est favorable à cet intérêt. On a bien eu une résurgence de l'Europe et il faut s'en féliciter, évidemment. Mais l'Europe, au lieu de se ranger sous sa propre bannière, elle a quand même une forte tendance à se ranger sous une autre bannière étoilée qui a également des raies rouges et blanches. Et donc, je crois qu'il est important. Oui, moi, je pense que l'Occident existe et que l'Occident doit se défendre, mais dans un respect des intérêts de ces différentes parties. Je me rappelle très bien, les gens ne se rappellent pas forcément, de ce que dit Anthony Blinken quand il passe au printemps 2021 à Bruxelles et qu'il parle à ses homologues, ministre des Affaires étrangères. Et j'en parlais récemment avec le ministre des Affaires étrangères espagnol qui était là. Il dit, oui, Blinken dit, maintenant, ne vous trompez pas, la mission de l'OTAN est de se préparer à la guerre contre la Chine.
Alors ça, on va y revenir. Est-ce que l'OTAN va se tourner vers l'Asie?
Voilà.
Mais juste d'abord, Yves Bourdillon, on souhaiterait l'autonomie stratégique de défense. Mais est-ce que les autres pays européens nous suivent sur cette affaire? Est-ce qu'en Pologne, on dit « Ah bah oui, ce serait bien que ce soit Bruxelles qui nous défende » et non pas Washington?
L'autonomie stratégique de défense est une jolie formule pour dire en gros une alliance militaire où on se défend entre Européens sans s'appuyer sur les États-Unis. Alors d'une part, je cherche les moments où la sécurité de l'Europe a été en jeu et où les États-Unis ont dit « débrouillez-vous, ça ne nous regarde pas ». Je ne trouve pas vraiment d'exemple, mais quand bien même... Pour ce qui est de cette...
Vous voulez dire par là, les Américains ont toujours répondu présent et il n'y a pas de raison qu'un jour ils ne répondent pas présent.
Je cherche des épisodes où on a appelé au secours et ils ne sont pas venus. Mais
1919, les traités de Versailles est basé sur l'assurance sécurité qui n'est pas donnée. Et les Américains, les Anglais, on le sait bien, ont été germanophiles jusqu'au début 1939. Et les Américains ont arrêté les réparations allemandes et ont exigé de l'aide en laissant tomber cette assurance sécurité. Comme ils l'ont fait avec Kiev.
Vous parlez de 1919, moi je parle de l'OTAN de 1949. D'accord. 49.
Mais donc, en tous les cas, pour beaucoup, l'Amérique est un pays, est un allié solide.
Mais quand vous discutez avec des Polonais, des Tchèques ou autres, eux, l'autonomie stratégique, en fait, il n'y a que la France qui plaide pour ça. C'est-à-dire que les autres pays européens, non, ils n'y croient pas. Pour eux, la sécurité, c'est l'OTAN. D'une part, parce que les pays de l'Est, ils ont bien vu que ceux qui ont tenu tête à la grande menace soviétique, c'était les États-Unis. Ils en sont donc reconnaissants aux États-Unis. Deuxièmement, ils préfèrent quand même faire partie d'un club de défense où il y a le plus gros taulier, où il y a la plus grosse armée du monde. Les États-Unis, c'est 40% des dépenses militaires mondiales. Donc pour eux, ils s'appuient là-dessus. Et en même temps, quand on regarde la défense européenne, on en parle depuis 1954, ça fait donc 70 ans. Et qu'est-ce que ça a produit? Pas grand-chose, à part quelques états-majors, le record. Je crois que tout ce que ça a produit, la brigade franco-allemande, 5600 hommes, et pas beaucoup plus que cela. Donc il faut bien reconnaître
la défense européenne, mais c'est la réalité.
Ça n'avance pas beaucoup.
Mais le fait que ce soit la réalité n'empêche pas
d'avoir une ambition.
Que ce soit autrement.
Alors, Patrick Martin-Genier, Yves Bourdillon disait à l'instant... beaucoup de pays en Europe préfèrent se mettre sous le parapluie américain bien tranquille plutôt que de s'aventurer derrière une hypothétique Europe de la défense. Est-ce que cette Europe de la défense que promeut Emmanuel Macron, quelle est sa capacité d'entraînement en Europe pour accoucher de cette Europe de la défense? On sait qu'on lui a beaucoup reproché certaines de ses petites phrases en Europe de l'Est quand il a dit, je ne veux pas les reciter, mais d'ailleurs il a dit peut-être qu'il n'aurait pas dû les citer, comme il ne faut pas humilier la Russie ou donner des garanties de sécurité à la Russie.
Oui, mais je crois qu'il y a les désirs et puis il y a la réalité, comme vient de dire M. Bourdillon. Je crois que c'est très clair qu'aujourd'hui, en fait, il y a une véritable ambiguïté sur le terme de défense européenne. Il faut le dire, la défense européenne,
c'est quoi ?
Ça n'existe pas. Voilà. Donc, en revanche, Emmanuel Macron a toujours employé depuis 2017 cette expression. Donc on a eu l'impression que ça avançait très bien. Et force est de constater, c'est pas uniquement Emmanuel Macron qui l'a commencé, c'est aussi François Hollande avec Angela Merkel. Il y a eu un début de réflexion sur une indépendance de l'Europe, notamment avec le Fonds européen de défense, doté de 8 milliards d'euros jusqu'en 2027, je crois, c'est tout à fait modeste. Quand on voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un matériel militaire commun entre la France et l'Allemagne, gros malentendu entre les deux pays. D'ailleurs, Emmanuel Macron...
Les Américains achètent du matériel. Les Allemands achètent du matériel américain.
Les Polonais, les États baltes. Et donc aujourd'hui, certains disent aujourd'hui que le concept d'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron a pris un sérieux coup dans l'aile. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas raison de réfléchir. C'est une action à long terme. Mais il faut faire attention de ne pas créer une espérance qui serait vaine en disant qu'il y a une défense européenne qui n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas renforcer la stratégie. Simplement, je dirais une chose, c'est que lorsque les juristes vous le diront, avec ce traité sur l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité d'avoir une défense européenne, sauf si on vote à l'unanimité. Et donc, c'est extrêmement difficile, bien évidemment, qu'aujourd'hui, ça n'existe pas.
Alors, général Vincent Desportes, en attendant, Poutine a ressuscité l'OTAN, c'est Emmanuel Macron qui le disait, et on l'a bien compris, l'OTAN, c'est le patron, le taulier, ce sont les Américains. Je cite hier le Financial Times article. La France s'oppose au projet d'un siège de l'OTAN à Tokyo. Est-ce que vous me parliez tout à l'heure de la volonté américaine de basculer vers l'Asie? Est-ce que cette tutelle de l'OTAN va nous amener, va nous aussi, par la force des choses, nous amener vers l'Asie? Est-ce que c'est vers Tokyo? Est-ce que c'est ça qui est à craindre?
Alors, c'est la volonté américaine. Et je l'ai dit, ça a été exprimé extrêmement clairement par Anthony Blinken en mai 2021. C'est la volonté américaine. Et en ceci, cette guerre est une aubaine pour eux parce qu'elle rallie sous la bannière étoilée les pays européens. Maintenant, je crois... Vous avez raison, la défense européenne n'existe pas. On est bien d'accord. Mais le principe de base de la diplomatie, le principe de base militaire, c'est la liberté d'action. Et vous êtes toujours dépendant de celui qui vous défend. Or, on sait bien que les intérêts américains et les intérêts européens sont assez souvent convergents, mais ils sont aussi assez souvent divergents. Donc, il faut une capacité à dire non. Quand vous dépendez de quelqu'un, on peut vous lâcher. Les Américains, certes, ils sont intervenus, mais enfin, ils ont laissé tomber Chiang Kai-shek, ils ont laissé tomber les Vietnamiens, ils ont laissé tomber les Irakiens,
Moubarak.
Ils ont laissé tomber les Afghans, ils ont laissé tomber Moubarak. Donc, et pourquoi ? Ces gens-là dépendaient. Ils dépendaient. Donc, quand l'Amérique dit « j'arrête », et qui décide en Amérique ? C'est le redneck du Nevada. Il ne faut pas se tromper sur cette affaire-là.
L'électeur américain.
L'électeur américain. Donc, il faut qu'on soit capable, nous, de cette autonomie et surtout de ne pas aller là-bas. Est-ce que...
Pas aller là-bas en Asie.
Pas aller là-bas en Asie, bien sûr. C'est quand même l'organisation de l'Atlantique Nord, comme vous le disiez.
Autant, ça veut dire organisation
de l'Atlantique.
Traité de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique donc pas Nord. Du Pacifique.
Et oui. Absolument. Et je rappelle que chaque fois que l'OTAN est allée ailleurs, c'est-à-dire en Afghanistan, elle a perdu. Quand elle est allée faire la guerre en Libye, elle a perdu. Il n'y a qu'au Kosovo où elle n'a pas perdu, mais enfin, on sait ce qu'est la situation au Kosovo aujourd'hui. Je dirais donc qu'il faut que l'OTAN existe. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette affaire-là, avec un pilier européen, mais qui reste concentré sur son métier, qui est la défense de l'Europe.
Alors, Yves Bourdillon, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de faire remarquer, comme le disait le général, que OTAN, ça veut dire Atlantique. AN, c'est Atlantique Nord, c'est pas Pacifique Nord. Donc pourquoi les Américains veulent-ils que l'OTAN s'étende en Asie et ouvrir un bureau à Tokyo ?
C'est écrit effectivement sur le traité, Atlantique Nord. Donc l'espace géopolitique, la menace, c'est la Russie. Donc tout ça, c'est en Europe. Maintenant, effectivement, il est légitime pour les États-Unis de considérer que la grande menace, c'est la Chine.
C'est la Chine.
Donc, eux, ils poussent leurs pions et on peut les comprendre. Et d'ailleurs, il se passe des choses, des alliances entre les États-Unis, le Vietnam, l'histoire tourne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Donc, il y a quelque chose là qui se met en place. Et il est légitime que les pays européens se sentent concernés. Mais pour autant, ça ne doit pas les conduire à ce que l'alliance militaire dont ils font partie avec une obligation de solidarité extrême se transpose en Asie et il faut que les pays européens puissent rester un peu en dehors de tout ça, enfin qu'ils ne soient pas obligés d'être impliqués au cas où il y aurait...
Pour dire les choses, si demain la Chine attaque Taïwan, voire le Japon, nous serions, dans le cas de l'OTAN, obligés d'intervenir militairement à Taipei ou à Tokyo pour défendre les Japonais ou les Taïwanais.
C'est pour ça que l'OTAN ne doit pas devenir dans le Pacifique, ne doit pas devenir asiatique. Et d'ailleurs, pour autant, on n'est même pas sûr que les États-Unis interviendraient au profit de Taïwan. Probablement, mais ce n'est quand même pas archi sûr. Non. Donc il y a tout un jeu compliqué dans lequel l'Europe doit garder sa distance, tout en, j'insiste, ayant bien conscience que les ambitions de la Chine la concernent. C'est-à-dire la volonté de domination de la moitié de l'humanité de la Chine, c'est un vrai sujet. Mais il faut qu'elle puisse garder son autonomie de décision. En quelque
c'est sorte. Les fameuses phrases qu'avait prononcées Emmanuel Macron en revenant dans un avion, là où il avait dit « L'Amérique ne doit pas nous entraîner dans son combat en Asie contre la Chine, qui n'est pas forcément le nôtre ».
Voilà, qui n'est pas un combat qui nous concerne ou qui ne nous regarde pas directement. Ceci dit, c'est quoi un bureau de liaison de l'OTAN ? Enfin, je sais pas, c'est deux, trois personnes, c'est ridicule. Mais effectivement, il faut revenir à la base géographique, la base juridique. Ce sont les articles 5 et 6 qui disent que l'OTAN, c'est d'abord l'Atlantique Nord, le nord de l'Europe, les États-Unis et les îles qui appartiennent à l'Europe au nord du tropique du Cancer. Voilà, donc, et là, ça ne nous concerne absolument pas. Et je ne vois pas l'utilité, effectivement, d'ouvrir. Alors, il y a une chose. Moi, j'étais au Japon il y a un mois et demi. C'est vrai que...
On craint beaucoup la Chine là-bas. C'est
oui,
leur obsession.
Oui, c'est une obsession. Il y a une obsession sécuritaire. On sent cette obsession sécuritaire, la peur notamment de la Chine, mais également de Kim Jong-un, le régime de la Corée du Nord. Régulièrement, des alertes ont lieu là-bas à Tokyo et à Hokkaido. Donc, il y a une vraie logique sécuritaire. Donc, je comprends tout à fait. Par ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, s'est rendu à Tokyo précisément, a eu des entretiens avec le gouvernement. Et là, il y avait une demande et, semble-t-il, c'était concerté avec les États-Unis. Mais, comme vous savez, il faut l'unanimité pour cela. Et donc, je crois qu'il faut se recentrer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une organisation spécifique pour l'Asie, pour lutter contre le danger chinois.
Yves Bourdillon, dans l'excellent journal Les Échos, il y avait cet article hier. L'Asie redoute un incident désastreux entre Pékin et Washington. Est-ce qu'à force de se chercher querelle, de se défier, peut y avoir un petit accident qui fait que ça dégénère. À la fin, on finit par se trouver quand on se cherche.
Notre correspondant au Japon a raconté effectivement que des dirigeants de l'Indonésie, de Singapour, du Cambodge et je crois aussi des Philippines ont fait valoir que c'était un peu dangereux et que donc il fallait qu'il y ait des canaux de communication qui en ce moment entre Washington et Pékin sont un peu au plus bas pour éviter un incident puisque récemment il y a un avion chinois qui a fait une manœuvre dangereuse devant un avion d'observation américain. Donc ils insistent là-dessus et puis derrière il y a une autre analyse qui est il ne faudrait pas que la rivalité conduise à une guerre ouverte, en quelque sorte. Alors, ils sont dans une position très compliquée, parce que ces pays-là ont peur de la Chine, et tous ces pays-là, d'ailleurs, souffrent des ambitions, notamment maritimes. La Chine dit que toute la mer de Chine méridionale, c'est à elle, alors que ces pays-là, ils revendiquent aussi un espace maritime. Donc ils sont dans une position où ils ont besoin que quelqu'un tienne tête à la Chine, sans pour autant aller trop loin et provoquer une déflagration. C'est leur difficulté et c'est aussi un peu la nôtre.
Général Vincent Desportes, c'est incroyable ce grand retour de la guerre. Enfin, on le touche physiquement, nous, depuis plus d'un an en Ukraine. On pensait que ça appartenait au livre d'histoire, hein, pour nous.
Mais c'est terrible, nous sommes revenus au Moyen-Âge. Nous sommes revenus dans un monde de violence et de rapports de force. Le monde qui a été créé intelligemment par les Américains en 45 à San Francisco, ce monde-là s'est délité. Et là, tout d'un coup, on a une bascule. Il n'y a plus un accord de désarmement au monde qui tienne. On est revenu en avant. C'est pour ça qu'il faut penser le monde de demain. Et ça me paraît aussi important que de penser la guerre d'aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir aidé à décrypter les derniers événements et ce barrage qui a été détruit en Ukraine, probablement, disiez-vous, dynamité par les Russes, Yves Bourdillon. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouvel Info, c'est clair. Bonne journée sur France Info et à demain.